VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 31 mai 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Tchad, 6 candidats à la dernière présidentielle convoqués aujourd'hui à la police judiciaire de N'Djamena.
En Côte d'Ivoire, ouverture aujourd'hui à Abidjan du procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire.
Au Burkina Faso, liberté provisoire pour Eddy Constance Kombo-Higo, chef du parti de l'ex-président Blaise Compaoré.
En République centrafricaine, lancement hier des opérations d'identification des ex-combattants au PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui.
Nous reviendrons aussi sur la condamnation à la prison à vie de l'ex-président tchadien Hissène Habré.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Cleveland et Golden State se retrouvent pour la 2e année consécutive en finale de la NBA. Pour l'instant, le journal.
Au Tchad, 6 des candidats malheureux à l'élection présidentielle du 10 avril sont convoqués ce mardi à la police judiciaire de N'Djamena. En l'absence de deux d'entre eux, le chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo et Lakouen Kourayo, 4 des candidats se disent prêts à répondre à la convocation. Chérubin Dorsil a recueilli la réaction de l'opposant Gali Gatan Gote.
Rien n'a été mis dans la convocation, donc on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais quelques indiscrétions nous ont fait savoir qu'il s'agit en fait d'une conférence de presse que nous aurions faite sur la disparition des militaires et qu'on voudrait nous écouter en tant que témoins. Je réagis en disant que nous ne sommes pas témoins de tels événements dans la mesure où nous n'avons pas assisté directement aux arrestations, aux déportations, aux disparitions des gens. S'il y a des témoins à chercher, c'est dans les camps militaires et dans les postes où les militaires ont voté. Nous ne sommes pas témoins. Ensuite, nous ne sommes pas plaignants parce que nous ne sommes pas les parents de ces militaires. Indirectement, nous nous sentons concernés dans la mesure où ce sont des gens qui ont voté pour l'opposition et c'est le prétexte que le gouvernement a trouvé pour pouvoir les arrêter. Mais dans tous les cas, c'est l'expression de leurs droits constitutionnels et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait les arrêter sur ce chapitre-là.
Vous allez répondre à cette convocation?
Oui, nous y allons. Nous ne voulons pas leur laisser cette possibilité de nous reprocher quoi que ce soit. Nous irons, mais je ne crois pas que nous allons répondre à ce qu'ils attendent de nous.
L'opposant Gali Gatan Gote, joint à N'Djamena par Chérubin Dorsil.
Concernant toujours le Tchad, la seconde partie de cette édition sera essentiellement consacrée à la condamnation hier de l'ex-président Hissène Habré à la prison à vie par les chambres africaines extraordinaires à Dakar pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Le procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, s'ouvre aujourd'hui à Abidjan en l'absence des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent leur marginalisation dans la procédure. Précision de Jean-Roger Bion.
Madame Gbagbo, 66 ans, comparaît pour crime contre l'humanité, crime contre les prisonniers de guerre et crime contre les populations civiles, commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Ce nouveau procès devrait durer un mois et verra la participation de 25 témoins de l'accusation. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo est actuellement incarcérée à Abidjan, où elle purge une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier. La Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la Lido et le mouvement ivoirien des droits de l'homme MIDH, qui disent représenter près de 250 victimes, ont annoncé lundi leur décision de se tenir à l'écart du procès. Human Rights Watch a de son côté évoqué un moment charnière pour la justice si les victimes ont droit à un procès crédible, équitable et suivi par d'autres procès visant les auteurs de violations des droits humains des deux parties de la crise post-électorale de 2010-2011.
La Côte d'Ivoire doit renforcer ses dispositifs de protection des droits de l'homme pour assurer le relais de l'ONUCI, la mission de l'ONU dans le pays qui s'achève en juin 2017. Précision de John Linden.
Il est important que les Ivoiriens soient prêts à prendre le relais en matière de protection des droits de l'homme une fois la mission de l'ONU terminée juin 2017, a déclaré Mohamed Ayad, expert indépendant, sur le renforcement des capacités et de la coopération technique avec la Côte d'Ivoire dans le domaine des droits de l'homme. À ce titre, il est essentiel que les autorités réforment la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et la dotent des moyens nécessaires pour qu'elle puisse mener à bien son mandat et travailler en toute indépendance, a-t-il précisé au terme de sa 4e visite effectuée du 23 au 28 mai en Côte d'Ivoire. L'ONU prévoit la fermeture définitive de sa mission en juin 2017. Le gouvernement ivoirien avait souhaité que les casques bleus se retirent totalement fin 2017 ou début 2018. En attendant son départ, souligne le rapport, l'ONUCI devra se concentrer sur les efforts de réconciliation nationale, la démobilisation des anciens rebelles, la promotion des droits de l'homme et la livraison d'aide humanitaire.
À Alger, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, et la coalition des groupes armés pro-gouvernementaux maliens, dite la plateforme, ont appelé lundi à accélérer la mise en place d'une autorité de transition dans le nord du Mali. Des détails avec Timothée Donangmaï.
L'objectif de la rencontre d'Alger, à laquelle a assisté le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, était de débattre des principales causes entravant l'application des points essentiels de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, a indiqué le représentant de la CMA, Mohamed Maouloud Ould Ramadan, que cite l'agence officielle algérienne APS. Déplorant le fait qu'aucun point de l'accord n'a été appliqué jusqu'ici, le représentant de la CMA a appelé la communauté internationale et la médiation internationale conduite par l'Algérie à consentir davantage d'efforts pour sauver l'accord. L'Algérie dirige le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation qui avait été mis en place en juin 2015 afin de superviser la mise en application de l'accord de paix. En mars, la 7e session de ce comité à Bamako avait fait état d'avancées significatives concernant la mise en place d'administrations transitoires dans le nord du Mali.
Au Burkina Faso, Eddy Constance Komboigo, chef du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, a bénéficié lundi d'une mise en liberté provisoire, a appris l'AFP de sources concordantes à Ouagadougou. Fin janvier, il avait été inculpé et mis sous mandat de dépôt, notamment pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat lors du putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne de M. Compaoré, le 17 septembre contre la transition.
Au Congo-Brazzaville, la justice a décidé hier de déférer l'opposant Paulin Makaya, détenu sans procès depuis 6 mois, devant un tribunal correctionnel pour incitation aux troubles à l'ordre public. C'est ce qu'a annoncé son avocat, maître Éric Yvon Ibwanga. Les autorités ont reproché au leader de la petite formation Unie pour le Congo, UPC, d'avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre contre le référendum autorisant le président Denis Sassou Nguesso à briguer un troisième mandat.
En République centrafricaine, lancement hier des opérations d'identification des ex-combattants au PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui. Les activités se déroulent dans l'enceinte du commissariat du 3e arrondissement en présence des représentants de la MINUSCA et du gouvernement de Bangui. Notre correspondant Freeman Sipila.
Selon la prévision, 500 ex-combattants, 150 ex-silica et 350 membres des groupes d'autodéfense devront être recensés avant la mise en œuvre du projet réduction des violences communautaires initié par le gouvernement et la MINUSCA au PK5. Michel Apollinaire Bangui, fonctionnaire du Haut Commissariat au DDR, représentant du gouvernement, explique ces opérations.
C'est la continuité des opérations d'enregistrement et de profilage socio-professionnel des ex-combattants. Mais aujourd'hui, on a démarré avec les ex-combattants Seleka du kilomètre 5 pour compléter déjà l'effectif qu'on a démarré au niveau du camp BA, le BCS et RDOT.
Pour les ex-combattants, c'est un ouf de soulagement après 3 années d'instabilité sécuritaire. Ce projet leur permettra d'avoir des activités génératrices de revenus. Selon les organisateurs, si tout se passe comme prévu, les opérations prendront fin le week-end prochain. Freeman Sipila, Bangui, VO Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En bref, ailleurs dans le monde, les forces irakiennes ont donné l'assaut hier à Fallujah, bastion du groupe État islamique, situé à seulement 50 kilomètres de Bagdad, marquant une nouvelle phase de combat urbain dans l'offensive lancée il y a une semaine pour reprendre la ville. Plus au nord, les forces kurdes ont annoncé lundi avoir atteint les objectifs clés d'une opération lancée la veille, en reprenant aux djihadistes 9 villages à l'est de Mossoul, capitale autoproclamée de l'organisation terroriste en Irak.
En Israël, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman a été investi lundi par le Parlement israélien comme ministre de la Défense et il a aussitôt assuré qu'il était favorable à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, après des années de rhétorique agressive.
Enfin, la commission indépendante de vérification et d'évaluation électorale à Haïti recommande, dans son rapport remis lundi aux autorités, l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle tenue le 25 octobre dernier, et ce, en raison de fraude.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Inauguration au Burkina Faso de deux nouvelles cimenteries. Il s'agit de la maison du ciment Chimasso, en langue locale Dioula, qui sera construite sur 17 hectares dans le sud-ouest à Bobo et la Simfaso. L'investissement coûtera respectivement 60 milliards et 16,5 milliards de francs CFA. Les travaux devraient prendre fin dans 18 mois. Le ministre de l'Industrie, Stéphane Sanou, estime que ces deux entreprises dans le secteur permettront une baisse sensible du prix de la tonne, compris aujourd'hui entre 110 000 et 114 000 francs CFA. Les commerçants du Grand Tunis ont exhorté hier lundi le gouvernement à agir contre le fléau des vendeurs ambulants qui nuit gravement, selon eux, à leur profession, mais aussi contre la fermeture pour des raisons de sécurité de plusieurs artères du centre-ville. Ils ont par conséquent suspendu un appel à la grève générale. Enfin, la Commission européenne appuie sur l'accélérateur pour arracher l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Par conséquent, la Commission met la pression sur les 28 pays membres de reconfirmer le mandat pour aboutir à la conclusion avant le départ du président américain Barack Obama de la Maison-Blanche en janvier 2017. Mais certains poids lourds de l'Union européenne, comme l'Allemagne et la France, ont estimé que les Américains n'ont pas fait de concessions suffisantes pour un compromis, ce qui rend très incertaine la perspective d'achever les négociations dans 7 mois.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, des changements dans l'organisation de la Ligue des champions en Afrique.
Oui, la CAF a décidé que les compétitions interclubs africaines vont passer à une phase de groupe à 16 clubs dès l'année prochaine. À l'issue du tour préliminaire, 32 équipes seront qualifiées pour les 16e de finale dans chacune des compétitions. Les vainqueurs des 16e de finale en Ligue des champions seront, après tirage au sort, répartis en 4 groupes de 4 équipes. La Coupe de la Confédération, elle, gardera son tour de cadrage au début et ensuite elle sera comme la Ligue des champions. L'idée est de générer plus de droits de télévision. Il comptera désormais 20 dates pour les compétitions interclubs qui iront de mars à novembre pour la Ligue des champions et jusqu'en décembre pour la Coupe de la Confédération.
L'ancien international croate Zvonimir Boban a été nommé secrétaire général adjoint de la FIFA.
Oui, l'annonce a été faite hier par la FIFA qui cherche à restaurer son image après la révélation de plusieurs scandales. Boban, âgé de 47 ans, milieu de terrain du Milan AC, dominateur des années 90, assistera à la Sénégalaise Fatma Samoura, la nouvelle secrétaire générale qui prendra ses fonctions le 20 juin pour les dossiers liés au football. Depuis sa retraite en 2002, le Croate a été diplômé en histoire de l'Université de Zagreb et commentait le football à la télévision. L'arrivée de Zvonimir Boban intervient une semaine après le renvoi du secrétaire général par intérim de la FIFA, l'Allemand Markus Kattner, suspecté de manquements financiers en lien avec ses fonctions qui pourraient se chiffrer à des millions de dollars. Et pour terminer, Idrissa, la NBA, le championnat de basketball nord-américain, et hier soir, il y avait le match numéro 7, dans la conférence Ouest.
Oui, et le champion en titre, Golden State, s'est qualifié hier soir pour la 2e année consécutive pour la finale NBA où il retrouvera à partir de jeudi, comme en 2015, Cleveland. Golden State est venu à bout d'Oklahoma City, 4 victoires à 3 dans la finale de conférence Ouest, l'équivalent des demi-finales, en remportant le match numéro 7, 96 à 88.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nos dossiers du jour, maintenant, dossiers qui seront essentiellement consacrés ce matin au verdict prononcé hier contre l'ancien président tchadien Hissène Habré, que jugeaient les chambres africaines extraordinaires à Dakar, au Sénégal. Pour commencer, les réactions au Tchad même, où les victimes se réjouissent de la condamnation de l'ex-homme fort de N'Djamena à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. André Kodmadjengar.
Hissène Habré, la chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Berdao Gustave, président du tribunal des chambres africaines extraordinaires en charge du dossier Hissène Habré. Dès l'annonce de cette sentence, les victimes qui suivaient ce procès historique à la minute près en direct de N'Djamena, à travers un petit écran installé à leur siège, éclatent de joie. Durant son règne de 1982 à 1990, Hissène Habré était président de la République, chef suprême des armées, puis ministre de la Défense. Il a créé et entretenu un système où la terreur et l'impunité sont érigées en règle. Ses victimes se réjouissent de la condamnation de leur bourreau.
Je suis soulagée parce que justice a été rendue.
Tout ce que je demande, qu'il soit pardonné. Et je remercie le Seigneur d'avoir écouté la voix des orphelins et des veuves.
Aujourd'hui, 30 mai 2016, reprenons ensemble. Plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Le gouvernement tchadien prend acte de ce verdict qui, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est une victoire pour les victimes et pour leurs conseils.
Nous ne pouvons que prendre acte de la décision rendue et nous féliciter du verdict, surtout rendu par une juridiction mise en place par l'Afrique pour juger l'ex-dictateur Hissène Habré. C'est une fierté pour nous tous, et tout en relevant que les partis disposent d'une quinzaine de jours pour faire appel. Le gouvernement reste mobilisé auprès des victimes, comme il a eu à le faire par le passé. C'est une victoire pour les victimes, c'est une victoire pour le gouvernement tchadien et une victoire pour les partis défendant les droits humains à travers le monde.
Moustapha Ali Alifoui se prononce également sur l'indemnisation de ces victimes.
Le verdict qui vient d'être fait est un verdict au pénal. Il y aura une juridiction civile qui va engager les partis et prendre en compte cet aspect de la question. Il est évident qu'au niveau du Tchad, lorsque le procès s'est déroulé pour les complices, il y a eu effectivement des saisies des biens des uns et des autres afin d'indemniser les victimes. Donc, dans la phase actuelle, il y aura un appel et puis après l'appel, le gouvernement donnera une position beaucoup plus claire et beaucoup plus déterminante sur ce qui va se faire par la suite.
André Kodumazigar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
La condamnation de l'ancien président tchadien est très mal digérée par ses partisans. Son avocat rappelle que son client a toujours rejeté la compétence des chambres africaines extraordinaires où son client est jugé depuis juillet 2015. La décision rendue hier par le tribunal ne surprend donc pas dans son camp, ainsi que l'a déclaré maître Ibrahima Diawara.
Il est clair que dès le début, on avait déjà donné notre position sur la légalité des chambres africaines que notre client, le président Hissène Habré, ne reconnaissait pas et qu'il ne reconnaît pas aujourd'hui. Et la décision qui vient d'être rendue ne nous surprend pas. Nous l'avons dit depuis très longtemps, depuis que cette affaire a commencé. On avait dit que c'était une affaire à chaque fois que le procureur général demandait quelque chose et puis il se voyait accorder toutes ses demandes. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on retient tout simplement dans cette affaire, en ayant entendu aujourd'hui le délibéré qui a été vidé, c'est que malheureusement, les chambres africaines extraordinaires viennent de nous dire qu'en Afrique, les présidents de la République peuvent être poursuivis et déclarés responsables dans leur propre pays pour tout ce qui se passe dans les commissariats de police, tout ce qui se passe dans les brigades de police, tout ce qui se passe dans les services de sécurité et tout ce qui se passe concernant le fonctionnement de leurs armées. Je pense qu'il y a des présidents africains qui ne doivent plus dormir.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Pour nous, cette affaire est terminée le jour où les juges des chambres africaines extraordinaires ont refusé d'accepter la stratégie de défense qui a été mise en place en accord avec notre président Hissène Habré et qu'elle avait pris la décision de nous écarter de la procédure et de choisir elle-même des avocats qui étaient prêts à défendre le président Hissène Habré comme le voulaient les chambres africaines. Ceux-là qui ont été choisis d'office contre la volonté du client qu'ils défendaient et qui ont été payés par ces chambres africaines, je pense que ce sont ceux-là aujourd'hui qui ont des réponses à donner sur l'exercice ou non des voies d'appel.
Que répondez-vous à ceux qui disent que le président Hissène Habré est un dictateur et qu'il mérite bien cette sentence, voire plus?
Oui, vous savez, c'est ce qu'on entend souvent. Je dis souvent aux gens, on nous a pas appelés dans un combat de gladiateurs. On nous a appelés à comparaître devant la justice. Et je pense que quand on dit justice, c'est un mot qui renferme des règles, le respect de certaines procédures et une certaine démarche. Alors quand des gens vous appellent dans une chose qu'ils appellent justice et pour laquelle vous vous rendez chaque jour qui passe, qu'elle fonctionne au-delà des normes de la justice ou des fois en contradiction des normes de la justice, il est normal que ces gens-là disent ça parce que ça ne traduit que leur volonté, que cette affaire n'a jamais été une affaire de justice, mais qu'il suffisait simplement pour ceux qui hier, adversaires de Hissène Habré, avaient perdu, ont réussi à transformer leur défaite politique en affaire judiciaire pour arriver à cela mettre hors d'état de nuire le président Habré.
L'un des avocats d'Hissène Habré, maître Ibrahima Diawara, joint par John Linden. En revanche, et au micro de Nathalie Barge, maître Hassan Diomandiaï du collectif d'avocats des victimes de Hissène Habré.
Un réel sentiment de satisfaction et de soulagement, d'abord à l'endroit des victimes qui ont fait preuve de patience, d'abnégation et d'obstination pour obtenir ce procès et ensuite voir leur statut de victime consacré aujourd'hui par la Chambre africaine et également un grand soulagement pour le fait que l'Afrique ait relevé ce grand défi, le défi de juger un de ses fils en respectant tous les principes d'un procès juste et équitable et en démontrant qu'elle est capable de prendre en charge ses propres destinées. Et ça, je crois que pour nous qui militions en faveur des droits de l'homme en Afrique, c'est un grand jour qui se lève.
Quelle a été la réaction de Hissène Habré?
Comme d'habitude, il a été toujours froid, imperturbable, même si nous savons qu'au fond de lui-même, il doit avoir des remords d'avoir été à l'origine de toutes les atrocités qui ont été retracées devant lui, devant l'Afrique, devant le monde. Je crois que, au-delà de sa supposée sérénité, je pense que c'est un homme qui doit être meurtri dans sa chair. Aucun homme, aussi cynique soit-il, ne peut être indifférent à autant d'atrocités, de calamités qui ont été décrites tout au long de ce procès.
Il a la possibilité d'interjeter appel. Cependant, où va-t-il purger sa peine?
Tout dépend de lui. De toute façon, a priori, le Sénégal est le lieu le plus indiqué. Mais en matière de justice pénale internationale, nous savons que la personne qui est condamnée peut demander à aller purger sa peine dans un pays qui accepterait de l'accueillir. Mais si d'aventure il y avait une procédure d'appel, je crois qu'il resterait au Sénégal en attendant que la procédure soit définitivement purgée.
Qu'en est-il de ses avoirs?
Nous sommes dans la phase de culpabilité. Nous savions que nous ne pouvions pas faire des demandes. C'est le parquet qui avait demandé une confiscation. Mais pour nous, la saisie conservatoire qui a été faite demeure. Et le moment venu, quand il s'agira de formaliser les constitutions de partie civile, évidemment, nous demanderons à ce que ces avoirs soient confisqués et versés dans le fonds qui sera institué pour la prise en charge de l'indemnisation des victimes.
Joint à Dakar, maître Hassan Diomandiaï, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Les défis de sécurité, de gouvernance et de développement qui se posent aux pays de la région du Sahel sont en particulier liés au changement climatique. C'est ce que estime l'Union africaine. Pour comprendre ce phénomène, Eric Manirakiza a joint à New York le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'ancien président du Burundi, le major Pierre Buyoya, qui a exposé ce phénomène devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pour moi, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps.
J'ai pu, par exemple, indiquer comment, dans le conflit malien, il y a la part de la grande sécheresse de 1973 qui a fait que les populations du Nord ont émigré massivement en Libye. Et quand ils sont revenus en 2012, ils sont revenus en armes. Et c'est ça qui a déclenché toute la crise. Parce que cette région, c'est une région extrêmement vulnérable sur le plan du climat, de l'écosystème, ce qui a un impact direct sur la vie des populations. C'est une région qui connaît un déficit important sur le plan alimentaire, qui connaît des catastrophes naturelles régulièrement, la sécheresse, l'inondation. Et tout cela a comme conséquence de fragiliser les populations. Elles sont à la merci de tous les aventuriers qui viennent là-bas, des terroristes, des trafiquants de drogue.
Et à vous donner l'exemple du Mali, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont très affectés par ce phénomène?
Autour du lac Tchad. Comment la détérioration de l'environnement autour du lac Tchad a fragilisé les populations là-bas, ce qui fait que cette région est devenue un terreau de recrutement pour Boko Haram.
Vous avez sans doute proposé des recommandations ou des voies de solution.
Comment lutter contre la désertification, comment faire la restauration des terres pour fixer les populations sur leurs terres, comment améliorer la subsistance de ces populations. La réponse est qu'il faut aller la rechercher dans la problématique du développement d'une façon globale. Par exemple, on a parlé d'appuyer fortement ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la Muraille verte. Comment qu'il faudrait réhabiliter le lac Tchad, qui est un lac qui est en voie de disparition.
Y a-t-il une responsabilité quelconque des États dans ce qui s'est passé?
Il y a une responsabilité des États dans le sens de dire que les États ont la première responsabilité de lutter contre le changement climatique, notamment en s'appuyant sur le fameux accord de Paris.
L'ancien président burundais Pierre Buyoya, joint à New York.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001-202-619-3140. Envoyez-nous vos SMS au 001-703-350-37-31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici, VOA Afrique, en direct de Bamako au Mali avec votre gars Roger Muntou de RM Show. Peace Africa!
C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.